Écriture dessinée. Bonjour à toutes et à tous. Alors, c'est Thibaut Soulcier. C'est une émission qui a été enregistrée au mois de mars et qui, donc, je peux diffuser maintenant. Donc, c'est fait dans les conditions du direct et c'est Thibaut Soulcier qui avait fait la programmation musicale et nous pourrons donc écouter successivement Ben Harper, Louisa et Astéro Tipi. Alors, quelques brèves pour démarrer. Je voudrais commencer par une sur les états généraux de la bande dessinée qui a lancé en 2025 une grande campagne dans la continuité de la première qui avait eu lieu 10 ans auparavant pour permettre de faire un état des lieux précis et complet de la situation des auteurs de bande dessinée et autrices, bien sûr, aujourd'hui, donc 10 ans après la première. Il y a eu une présentation de ce rapport et des réponses qui ont été obtenues. Et curieusement, ni le Syndicat national de l'édition, ni le Centre national du livre, ni l'État n'a envoyé de représentants. Par rapport à la situation, c'est tout simplement une faute grave et c'est un signal politique qui n'est pas du tout encourageant. Je vous invite à regarder et à lire les conclusions de ces rapports. Moi, j'en ferai une présentation prochainement, dans une prochaine émission. Et ce qui est vraiment important, c'est que c'est les auteurs qui vont parler, qui parlent de leur situation. Et c'est donc un rapport dont il est important de lire les conclusions. Vous tapez états généraux de la bande dessinée et vous tomberez dessus. Shadok. Deuxième brève. Alors, Aurel avait dans un de ses essais, il avait donc présenté la situation du dessin de presse et notamment que s'est-il passé avec l'avènement du numérique. La presse dans le numérique a été l'occasion pour différents titres de supprimer les dessinateurs de presse qu'ils avaient dans leur quotidien. C'est un changement important que Aurel a constaté. C'est souligné par un certain nombre de confrères, donc d'autres dessinateurs politiques, et qui ont ainsi dû changer complètement leur approche. Alors, il y a quand même des médias qui combattent cette situation, et notamment Mediapart, sur lequel Thibaut Soulcier présente chaque semaine la semaine de Soulcier. Et il y a aussi actuellement Pécho avec l'écho, qui est une chronique sur l'économie de Lisa Mandel pour la partie dessin et de Anne-Laure Delatte pour la partie écriture et donc ressources sur notre économie. Donc c'est au départ, alors il y a eu quatre publications qui ont été faites sur le site de Mediapart. Ça commence par la dette, après on a le budget, on a le trou de la sécu. Et puis ça va se rapprocher de l'actualité avec la flambée des carburants qui va avoir une suite qui paraîtra donc prochainement. C'est présenté avec des planches qui sont verticales, de manière assez classique, et l'enchaînement se fait verticalement, et on utilise donc l'ascenseur pour pouvoir lire l'ensemble de la bande dessinée. Il y a un ton qui se veut lisible et d'une très grande clarté, et qui va parfaitement avec l'ironie assumée de Lisa Mandel, qui, avec son trait très rond, brocarde joyeusement ce petit monde de l'économie, de la politique. Et il y a notamment des discussions entre Marianne et puis une personne qui se pose toutes ces questions sur l'économie, qui est en fait la dessinatrice elle-même. Et c'est toujours pertinent, et ça montre qu'il y a un espace indispensable à conquérir, à reconquérir, et que les rédactions de la presse sur Internet doivent absolument reprendre et garantir, parce que l'humour est une denrée essentielle. Et c'est important que le dessin politique continue à être présent quasi systématiquement sur chacun des supports de presse. Moustique. Alors, à Lyon, au moment du festival Sa Presse, il y avait un dessinateur de presse, Lara, qui a publié au mois de mars également Du pied gauche vers 2027. Alors, Lara est un dessinateur de presse en Rhône-Alpes, dans les Alpes, pardon, donc en Rhône-Alpes aussi, et qui donc publie très régulièrement et qui a fait partie du livre Carnet de campagne que Mathieu Sapin avait engagé et avait dirigé, et qui était une présentation de la campagne présidentielle. Alors c'est important parce que ça fait une approche en tout cas de ce livre Du pied gauche qui va se montrer très pertinente parce que on couvre uniquement cette fois la gauche. Lara a choisi de raconter comment la gauche, depuis 2022, depuis les élections présidentielles, eh bien, se prépare. C'est peut-être pas tout à fait le mot, mais en tout cas se dirige vers les élections de 2027. Alors, Lara choisit une chronologie simple. On part de 2022 avec l'après-élection et puis avec toutes les situations qui étaient donc à ce moment-là importantes. Il y a eu la réforme des retraites, il y a eu les Gilets jaunes, il y a eu la NUPES. Et donc, Lara va, en tant que dessinateur de presse, nous présenter ces différents événements, les mettre en perspective, utiliser la force du récitatif pour donner un point de vue souvent très succinct, mais qui donne tout de suite la mise en perspective et la profondeur à l'ensemble des événements qui sont présentés. Il y a les universités d'été et on s'immerge ainsi dans un peu la cuisine interne de chacun des partis. Alors, cette succession de reportages convient parfaitement à un dessinateur de presse qui peut ainsi, et c'est aussi son rôle, utiliser la bande dessinée pour développer un propos et que ça ne soit pas simplement une présentation à travers un dessin unique ou quelques dessins, parce que parfois il y a effectivement deux ou trois cases. Mais là, c'est vraiment le principe de la bande dessinée de reportage. Ce qui est important, c'est qu'en regardant la gauche, en montrant et en présentant toutes les oppositions qu'il y a pu y avoir depuis 2022 entre les uns et les autres, entre les écolos, LFI, le PS, le PC, et on a un mouvement à l'intérieur, vu à l'intérieur des différents partis, qui est assez troublant, parce que même si au moment, après la dissolution, au moment des législatives, eh bien, les partis de gauche ont assuré l'essentiel en permettant et en empêchant surtout le Rassemblement national d'avoir un très grand nombre de sièges, il y a une division interne des oppositions quasi structurelles, politiques, qu'ils n'arrivent pas à dépasser. Je trouve que la position de Lara est toujours juste et toujours équilibrée. Il ne cherche pas à brocarder. Il essaye d'avoir un point de vue aussi de journaliste, dessinateur qui va suivre. Et ça permet vraiment de détacher ce regard d'une quelconque approche partisane. La preuve en est, c'est qu'à un moment, il y a eu le 7 octobre 2023, et là, les propos de Lara sont très justes, d'une grande efficacité. On montre tout simplement que le 7 octobre, c'est de la barbarie, et ce qui suit, c'est aussi de la barbarie. Et donc, il y a ce point de vue assumé qui permet une lecture enthousiasmante, réjouissante, parce qu'on sort de ce principe de prendre parti systématiquement et d'opposer les uns aux autres. Là, il y a des choses qu'il faut nommer. Et ça a été fait pour cette guerre qu'il y a entre Israël et Palestiniens. Et puis, ce n'est pas seulement un livre sur la politique qui s'est déroulée depuis 2022, en allant vers 2027. Il y a aussi toute une partie autobiographique où Lara va parler de son père, qui est plutôt très âgé, et puis de sa mère qui est atteinte d'un cancer. Son père a Parkinson, c'est une situation douloureuse. Mais la façon dont Lara va l'aborder, il y a un grand moment, et notamment sur la façon de représenter la fin de vie. C'est important parce que on a une amplitude du dessin qui se met à l'œuvre, celui pour raconter l'ensemble de la situation politique depuis 2022, celui qui est à l'œuvre dans le dessin de presse qui va apparaître à différents moments, celui qui est à l'œuvre pour cette partie autobiographique et qui va aller jusqu'à cette représentation de la fin de vie de sa mère. Il y a quelques cases qui sont tout à fait remarquables. À d'autres moments, on a un autoportrait qui est fait en quelques traits de Lara et qui montre toute l'ampleur et la force de ce dessinateur. Il y a des témoignages, des représentations de moments forts comme l'utilisation d'un discours de Victor Hugo dans une manif, et c'est essentiel parce que ça nous reconnecte complètement au passé et à sa résistance. Et là aussi, la bande dessinée fait que ça touche puissamment. Il y a à plusieurs moments des phrases très fortes et qui permet et qui est extraite de la vie politique, et il y a vraiment des phrases qui seront à garder, à retenir. Le peuple qui ne sera jamais vaincu a été donc scandé dans une manif, et cette dimension de faire peuple, eh bien, c'est peut-être ça aussi une des grandes forces de la gauche, faire peuple. Lara du pied gauche vers 2027, un livre important pour observer, regarder, analyser, prendre parti si l'on le souhaite, avancer. sur la situation de la gauche, et c'est un des fils rouges du livre. Rien n'est écrit, il n'y a pas de fatalité sur ce qui va se passer en 2027. Du pied gauche, Lara est publié par les éditions d'Argo dans la collection Charivari. Les 164 pages de ce livre sont au prix de 21,50 €. Musique. I can change the world with my own two hands, make a better place with my own two hands, make a kinder place. Oh, with my own two hands, with my own two hands. With my own two hands, and I can clean up the earth. Lord, with my own two hands, and I can reach out to you. Oh, with my own two hands, with my own two hands. I'm gonna make it a brighter place. I'm gonna make it a safer place. I'm gonna help the human race. Aujourd'hui, Thibaut Soulcier, dessinateur de presse, œuvre dans différents médias comme Télérama, L'Équipe, La Revue Dessinée, Mediapart ou le 28 minutes d'Arte. Parallèlement au dessin politique, il utilise aussi la bande dessinée et sa narration en donnant une grande amplitude à son écriture dessinée. Soulcier a mis en image un tome de Donjon, Parade, Éternel Repos en 2025. Revenons aujourd'hui sur un autre de ses derniers livres, Dans la tête d'un dessinateur de presse. Si vous imaginiez qu'un dessin de une se pond chaque jour, chaque semaine, avec la même vivacité, la même assurance, eh bien vous avez tout faux. Dans ce livre, Soulcier explore les affres de la création d'un dessin politique. Et nous sommes tout de suite dans le bain avec la pression de la deadline, de l'heure de l'envoi du ou des dessins à sa rédaction. Chaque nouvelle dessinée pointe une facette du dessin de presse avec des questions essentielles comme peut-on rire de tout? Le dessin politique doit-il forcément faire rire? Comment gérer la pression des réseaux sociaux? Comment ne pas se répéter? Et l'IA. Sur la base d'un gaufrier de 4 cases, Soulcier reprend son trait incisif, ironique, volontiers vachard, aussi avec lui-même, et traite sans concession et avec un reste d'empathie ce monde ignoré du dessin de presse. Nous sommes avec le dessinateur Soulcier pour découvrir ce qu'il y a dans la tête d'un dessinateur de presse. Bonjour Soulcier.
Bonjour Bruno Canard.
Alors, pourquoi avoir fait ce livre?
On voulait travailler ensemble avec Mediapart. Moi, mon cœur de métier, c'est vraiment de faire du dessin de presse. Et eux, ils voulaient pas, Mediapart ne voulait pas être enfermé dans un rendez-vous avec le lecteur, avec un dessin forcé sur l'actualité imposée, quoi. C'est-à-dire que si on dessine pour un jour en particulier ou même tous les jours de la semaine, bon, si le lendemain, par exemple, s'il y a une attaque sur l'Iran, il est certain que le dessin principal le lendemain devra porter sur ça. Donc c'est un exercice imposé qui peut être un peu rébarbatif ou ennuyeux ou convenu. Donc on voulait parler d'autre chose sur un autre rythme. Et ils m'ont proposé une publication par mois le week-end pour faire une inspiration par rapport à leur actu dans l'ensemble. Et j'ai proposé quelque chose d'un peu méta qui était une réflexion sur, plutôt que des dessins de presse de la semaine, une réflexion sur la fabrique des dessins de presse et de la semaine et des difficultés que j'avais pu rencontrer au moment de les faire. Donc j'ai fait un épisode pilote que j'ai publié sur la partie blog accessible gratuitement de Mediapart, qui leur a plu, et on est parti ensuite. J'ai fait 10 épisodes en un an. Et on s'était mis d'accord pour l'équivalent de 6 pages. Donc vous l'avez dit, c'est des pages qui sont moins denses que des pages de BD normales, parce que c'est fait pour être lu sur l'écran. Donc il y a 4 cases très verticales par page. Et on s'était mis d'accord pour 6 pages de livraison mensuelle. Et très vite, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de choses à dire, parce que si le dessin de presse est un peu parfois synthétique ou partiel, enfin qui offre un éclairage un peu noir ou blanc sur certaines choses, là, comme je pouvais dérouler au gré du scroll de la page de Mediapart, j'ai pu raconter la zone grise, justement. Donc assez vite, je suis passé de 6 pages à 10 pages, et puis à la fin, ça faisait 20 ou 30 pages. J'étais pas payé plus, mais au moins je pouvais raconter tout ce que j'avais sur le cœur.
Soulcier, est-ce qu'il y a eu une vue d'ensemble de ce livre, ou une nouvelle en amenait une autre, un thème permettait d'en développer un autre?
L'ensemble s'est écrit au fur et à mesure. Au début, j'étais un petit peu pas dans l'impro, mais je me laissais porter par un sujet. Donc dès le début, quand j'ai commencé, c'était la semaine après les attaques du 7 octobre. Donc le sujet était assez tout trouvé, quoi. Ensuite, j'ai fait un recueil dans le livre, et dans le livre, les chapitres sont pas exactement dans le même ordre que dans l'ordre sur lequel ils ont paru sur Mediapart. Et ensuite, je me note des idées dans mon cahier, et il y a des grosses idées qui surnagent, donc je savais que je voulais parler de la façon de représenter l'autre, je savais que je voulais parler des marronniers et des sujets imposés, ça s'est un peu fait tout seul, parce que je pense que je me suis astreint à couvrir un scope assez large, et j'ai fini par une forme de conclusion sur ce qui pouvait menacer le dessin de presse, ou en tout cas l'avenir du dessin de presse.
Alors justement, puisque on est sur cette partie-là, le fait de travailler sur Mediapart, donc avec un support numérique, Aurel, dans un essai sur le dessin de presse, évoque en quoi les rédactions de quotidiens numériques ont évacué le dessin de presse qui était dans la une de leur version papier. Est-ce que le numérique joue ce rôle vis-à-vis du dessin de presse et rende la présence dans les rédactions des dessinateurs de presse plus difficile? Et comment se fait pour vous, avec Mediapart, cette présence dans leur une? Parce qu'on n'a pas le même fonctionnement que, par exemple, avec le dessin de Plantu sur la une du Monde.
Ben oui, alors je pense que le numérique, c'est un nouveau format, c'est des nouveaux usages, et ça mérite d'offrir des nouvelles possibilités. Je pense que les nouvelles possibilités, on ne les a pas encore épousées tout à fait avec le numérique. Par exemple, le fait que ça peut être très vertical, ou alors ça pourrait être animé, ou alors je pense qu'il y a des formats à inventer. C'est-à-dire que le dessin de presse est vraiment, par son nom et dans son essence, lié à la presse. Et comme la presse papier va pas très bien, le dessin de presse va pas très bien, et tout ce qui concerne les médias en ligne, le dessin de presse en ligne n'a pas encore, à mon avis, montré toutes ses capacités. Le problème, c'est que le dessin de presse traditionnel a pas mauvaise presse, mais il peut être perçu par les jeunes comme quelque chose de problématique, quelque chose qui est un art perdu pour qui plaît aux boomers, parce que, disent-ils, le dessin de presse utilise des stéréotypes et des préjugés pour faire des raccourcis, et la jeune génération progressiste essaye de se débarrasser de ces préjugés et ces stéréotypes, à juste titre. Et donc, parfois, quand une nouvelle publication se crée en ligne, ils en profitent pour se débarrasser de ça. Après, par exemple, il y a des choses qui sont très vivaces, je trouve. En ce moment, il y a beaucoup de bandes dessinées, un peu d'actu, en trois ou quatre cases. Par exemple, Marc Dubuisson fait ça très bien. C'est très drôle, c'est très pertinent. Et ce n'est pas forcément sur de l'actu très très chaude. Donc il y a un peu de recul. C'est un autre truc qui change, je trouve, avec la presse en ligne, c'est que autant dans le journal papier, bon, on fait un dessin, il est perçu, lu, reçu, et on jette le journal en papier, alors que le journal numérique, il a tendance à rester en ligne. Donc bizarrement, le dessin de presse par nature périssable a gagné en longévité, puisqu'il reste en ligne plus longtemps que le journal en papier qui sert finalement à emballer les épluchures des carottes. Qu'est-ce qu'on disait? Quelle était la question, Bruno?
Ben c'est ça, c'est bien. La réponse va très bien. Alors, il y a dans votre livre, dans la tête d'un dessinateur de presse, beaucoup d'interrogations, beaucoup de questions sur cette pratique quotidienne et sa dureté. Beaucoup de doutes, finalement. Quels sont vos doutes, Soulcier?
Eh bien, alors, j'ai fait un petit sondage récemment au Festival des rencontres internationales du dessin de presse de Lyon, auprès de mes camarades, et il s'avère que j'ai des camarades qui le vivent beaucoup mieux que moi de faire du dessin de presse. C'est vrai que je me pose beaucoup de questions et je me mets dans le mal, et j'ai peu de réponses, et plus ça avance, moins j'ai de réponses. Donc mes questions dernièrement, puisque ça change d'un mois sur l'autre et d'une année sur l'autre, en ce moment, mes questions, c'est est-ce que ce que je fais, ce que je produis comme dessin, ce que je propose comme dessin, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pertinent, ou est-ce que c'est un coup d'épée dans l'eau et en fait un petit peu décoratif ou anecdotique? Et je me pose la question de... En fait, il y a cette sorte de deadline. Donc moi, j'ai des copains qui, quand ils ont une deadline à 18h, ils s'y mettent à midi, ils proposent 5-6 dessins, et à 18h, c'est fini. Et moi, je me pose toujours la question de, si ça se trouve, si j'avais travaillé 2 heures de plus le matin et une demi-heure de plus l'après-midi, est-ce qu'avec ces 2h30 supplémentaires, j'aurais pas trouvé des meilleurs dessins? À quel moment est-ce qu'on s'arrête en se disant... j'en ai assez. J'ai assez de mal à épouser le fait que je suis maintenant un dessinateur de presse avec de l'expérience et que je devrais être à peu près sûr de ce que je propose. La vérité, c'est que je ne suis pas sûr de ce que je propose et que si c'est moi qui devais choisir un dessin à faire, puisqu'on ne procède pas esquisse, c'est ce que je raconte dans le livre, ce que je fais, c'est je propose des esquisses, je propose différentes pistes et mon rédacteur en chef ou la rédaction en choisit un. Alors, ils disent pas les raisons, ils disent pas que celui-là c'est non parce qu'il est nul, celui-là c'est non parce qu'il est censuré, et celui-là c'est non parce que il est pas intéressant. Ils me disent juste fais celui-là. Donc moi, si je devais choisir moi, je serais bien embêté parce que je pense que le choix de la rédaction fait partie de l'élaboration du dessin de presse en quelque sorte.
Soulcier, comment l'actualité stimule? Est-ce qu'il y a vraiment des événements ou une actualité riche qui va être très inspirante, alors elle peut être dramatique et tragique. Comment ça agit sur votre expression et votre dessin?
Remarqué que quand je suis moi-même très triste et pessimiste, j'ai tendance à faire des dessins très noirs avec beaucoup de Xanax et de suicides et de morts violentes. Et quand moi-même je suis d'humeur printanière, il y a tendance à avoir beaucoup de sexe dans mes dessins. Donc je pense que c'est une partie du reflet du miroir de mon âme, quoi. Parfois on croise des gens qui disent « Oh là là, vous devez pas vous ennuyer en ce moment, il y a beaucoup beaucoup de choses, il se passe beaucoup de choses dans l'actu, quoi. » Alors c'est pas nécessairement plus facile quand il se passe beaucoup de choses dans l'actu, parce que va y avoir beaucoup de collègues dessinateurs qui vont avoir tendance à réagir, on va être beaucoup sur les mêmes thèmes et on risque de retrouver les mêmes choses. Et de la même manière, si l'actu est horrible, c'est difficile d'en rigoler, et à la limite, plus l'actu est dure, plus les dessins vont être durs et les gens n'ont pas forcément envie de voir ça. Mon collègue Aurel disait justement qu'il fallait se souvenir de ne pas accabler le lecteur avec des dessins affreux en permanence. Donc il faut réussir à garder de la joie et de la bonne humeur quand on affronte ce magma horrible d'infos nauséabondes et qui coule en permanence, quoi. L'idéal, c'est de s'y plonger de temps en temps pour faire des dessins et de pouvoir faire une pause de 2 3 jours après sans consommer d'informations et d'actualités.
Sous le ciel, je vous propose votre deuxième choix musical, et puis on se retrouve donc dans quelques minutes et on va parler dessin. À tout de suite. Vous êtes sur Radio Escapade dans l'émission Écriture dessinée. Nous sommes avec Soulcier, dessinateur de presse, et on parle de son livre Dans la tête d'un dessinateur de presse. Soulcier, quel dessinateur êtes-vous? Comment ça se passe sur votre table à dessin? Vous avez un dessin à l'énergie? Alors vous êtes comment? Vous êtes debout sur le tabouret? Vous êtes avec des grands gestes? Comment ça se passe?
J'ai une table à dessin assez haute, donc je suis pas assis avec les genoux plus haut que les hanches. J'ai un très très haut tabouret et j'ai tendance, je dessine un peu dans le geste et l'énergie, comme vous dites, j'ai tendance à dessiner assez grand. Et je me suis j'ai souvent des dessins A4 ou A3 avec mes bonshommes dessus, et ça me posait des problèmes quand je passais à la BD, parce que finalement je fais trois cases dans la hauteur d'un format A3 quand je fais une BD, et je me sens tout coincé par les bords des cases et tout endimanché dans mes bonshommes. Et comme solution, j'ai trouvé de faire les BD sur beaucoup plus grand, pour garder le même rapport d'énergie et de taille de pointe de mine par rapport à la taille de la feuille. Et j'ai tendance... En fait, le travail se divise en deux. Il y a la recherche d'idées et il y a l'exécution. Et l'exécution est beaucoup plus tranquille, même si elle est assez faite dans l'urgence. Donc, j'exécute assez rapidement. En revanche, je suis dans un mode où je peux écouter des émissions de radio, des podcasts, des choses intéressantes. Alors que quand je recherche les idées, je peux pas trop me parasiter avec des paroles. Soit je m'abreuve d'actu, soit j'écoute de la musique qui me met dans une bonne disposition mentale pour imaginer les idées. Et dernièrement, j'ai acheté un bureau qui on peut varier la hauteur et on peut être debout. Donc de temps en temps, je me mets debout, mais pas nécessairement pour dessiner. J'ai un peu la bougeotte quand même pour fabriquer des idées.
Alors, Soulcier, vous êtes un peu vachard avec vous-même quand même. Alors que, comment, quand vous vous représentez, c'est quoi l'émotion? À quel moment, jusqu'où vous allez dans votre représentation de vous-même?
Bah, comme tout le monde. Enfin, bon, je me dessine sans doute plus symétrique et frais et jeune que je ne suis vraiment avec mes dents jaunes, mes cernes et mon double menton. Mais je suis dans la caricature, en tout cas. J'exacerbe les émotions que je montre, même si sur mon visage je ne les montre pas. J'essaye de dessiner sur le visage en dessin. C'est un dessin un peu cartoon, quoi, avec des yeux exorbités et des bouches ouvertes et des langues géantes. J'essaye de représenter en dessin sur mon visage à l'extérieur les émotions que je ressens à l'intérieur en tant qu'humain, quoi. Donc je suis dans la caricature, et je pense que si on est satiriste, on devrait être soi-même une cible de choix. Et ma mère m'a toujours dit que si je savais rigoler de moi-même, je serais jamais à court de sujets de rigolade.
Sur cette énergie du dessin, est-ce qu'il y a des repentirs? Est-ce qu'il y a des corrections qui sont apportées? Ou est-ce que vous gardez ce qui vient, ce qui est venu? Ou est-ce que vous allez jeter parce que ça ne correspond pas à ce que vous voulez?
Alors, je peux... Quand je fais du dessin de presse, ça ne me dérange pas de recommencer 3, 4, 5 fois jusqu'à ce que j'ai la bonne mise en place. Et j'ai ce problème des gens qui trouvent que leur crayonné est plus... pas le crayonné, l'esquisse. Que l'esquisse est plus jetée, a plus de force, et j'essaye de regarder la même force. Et ce que je fais, c'est qu'en général, j'ai une esquisse au stylo Bic un peu épais, 1,6 mm. C'est des stylos Bic dont la pointe est plus ronde, plus large, qui qui glisse mieux, qui a moins ce côté aiguille des piques qui sont très piquants et qui peuvent creuser la feuille, et qui glisse. Et donc, je fais les esquisses comme ça, et en général, la mise en place dans l'esquisse est bonne, et l'énergie est bonne, même si c'est un peu de travers. Ensuite, j'ai tendance à remettre une feuille par-dessus, et par transparence, faire un crayonné plus poussé avec un crayon de couleur bleue qui ne va pas se retrouver... C'est ça que vous voulez des explications extrêmement pratiques.
Ouais. Oui, c'est très bien. Non, c'est...
je fais un crayonné plus poussé avec un crayon de couleur bleue qui, quand il sera scanné, disparaîtra au scan du fichier. Et après, j'encre par-dessus avec un stylo japonais jetable qui a un petit peu de délié. Donc là, je peux rester un peu dans le... Ça permet de ne pas être régulier, de ne pas avoir un trait qui m'ennuie. Et ça m'arrive parfois que le crayonné bleu soit très pouf-pouf, soit très lourdingue, et que l'ancrage se fasse en tirant la langue dans le but de m'appliquer, alors que justement, ce qui était bien dans l'esquisse, c'était ce côté extrêmement jeté. Donc, en fait, j'essaye de... m'en foutre assez pour transmettre une énergie, même si la perspective est de travers et que les proportions sont à peu près, etc. Et si je rate, alors quand je dis je rate, c'est souvent sur des histoires de caricature, c'est souvent sur des histoires de... c'est un peu trop déformé, c'est un peu trop maladroit, c'est pas exact, donc ça je peux refaire 5-6 fois. La caricature, ça ne me dérange pas. Après, j'avoue que maintenant, la caricature me vient plus facilement qu'avant. Avant, j'étais vraiment très, très laborieux, et je pense qu'au bout d'un certain nombre de milliers d'heures qu'on passe à faire ça, bon, maintenant, je vois quand je regarde un visage, même s'il est nouveau, je vois tout de suite ce que je vais exagérer comme trait. Et... au niveau des traits, ça m'arrive de mettre du Tipex par-dessus quand il y a du repentir, mais souvent quand je scanne du Tipex, ça fait des petits points gris. Donc ce qui m'arrive souvent, c'est je fais mon repentir, je mets un petit trait dessus, comme quand on marque des segments égaux en géométrie, ce qui me rappelle d'effacer, une fois que j'aurai numérisé mon dessin, ce qui me rappelle d'effacer sur la tablette le trait qui n'allait pas. Mais... parce que je mets en couleur sur l'ordi. Quoi qu'il arrive, je mets en couleur sur l'ordi. Je ne livre pas des dessins en noir et blanc et je ne fais pas de couleur directe parce que je suis trop mauvais, j'aimerais pas avoir à recommencer et en plus, je n'ai pas le matériel qu'il faut pour scanner correctement parce que c'est assez difficile de scanner de la couleur directe. Donc quoi qu'il arrive, je mets en couleur sur la tablette. D'autre part, sur cette tablette, il m'arrive de dessiner directement. Par exemple, le livre dans la tête d'un dessinateur de presse, je l'ai entièrement dessiné sur la tablette. J'ai essayé de garder pour une fois dans la BD, pour pas être trop tâcheron, j'ai essayé de garder la même énergie qu'il y a dans le dessin de presse, dans la bande dessinée, avec un nombre de couleurs minimal, parce que j'étais quand même aussi soumis à une deadline de livraison pour ces bandes dessinées pour Mediapart. Et donc ça m'arrive, quand c'est plus pratique, ou que je suis très pressé, ou que je sens que le dessin ne figurera pas dans mon anthologie à ma mort, de faire le dessin sur tablette. Et je me suis rendu compte que quand je dessine sur tablette, alors déjà sur la tablette l'iPad, j'ai pris l'iPad le plus grand pour que ce soit à l'aise pour mon dessin énergique et pas pour que ce soit des pattes de mouche. J'ai changé la mine et j'ai mis un autocollant qui sur l'écran qui donne une texture de papier et la mine elle est un peu rugueuse, ce qui fait qu'en fait quand je dessine, si on dessine avec l'iPad de base, l'écran de base et la pointe du stylet de base, ça glisse énormément. Ça glisse très vite. Et moi, j'ai reproduit la rugosité d'un papier. Bon, alors c'est pas non plus un papier canson avec un fin grammage et un stylo qui accroche un petit peu, quoi. Ça accroche un petit peu. Et je me suis rendu compte que quand je dessinais sur le iPad directement, c'était un peu chiant parce que là, comme j'ai tout à portée de main, la gomme et les crayons, et tu sais, on appuie avec deux doigts sur l'écran pour faire revenir en arrière, pour annuler le trait qu'on vient de faire, en fait, je vais avoir tendance à refaire 20 fois la bulle pour qu'elle soit bien ronde ou à effacer les petits bouts de... J'ai très souvent des bouts de traits qui rentrent dans les autres formes. J'ai très souvent un bout du nez qui rentre dans l'œil ou des choses comme ça, ou des traits qui vont un peu trop loin. Et donc, sur l'iPad, je le corrige. Alors que sur le papier, je le corrige pas. Et en fait, j'aime beaucoup plus le papier. Je fais... À un moment donné, j'étais presque entièrement sur l'iPad et je suis revenu. Et maintenant, je fais tout ce que je peux faire sur le papier, je le fais sur le papier, parce qu'il y a beaucoup plus d'erreurs et d'accidents. Je suis beaucoup plus permissif avec moi-même et avec les traits qui mordent et les erreurs de largeur de traits. Et je trouve que c'est plus vivant, et pour ce que je produis comme dessin, ça suffit. C'est-à-dire que il y a toujours cette forme d'urgence, et en plus, le dessin, souvent, il est vu sur un écran de téléphone, ou imprimé en petit. Par exemple, je travaille pour Les Républicains, le dessin, il doit faire quelque chose comme 10 cm sur 11, à peine, ou peut-être 8 sur 9, enfin, et c'est tout petit. Donc finalement, s'il y a une belle énergie dans le dessin et qu'il y a beaucoup de petits problèmes, finalement, les petits problèmes ne se voient pas réduits à cette échelle-là. Donc, je garde le papier tant qu'il est possible et j'embrasse mon imperfection et mes erreurs.
Soulcier, vous avez... lettré avec une typo créée par Jean-François Rey, qui est oui. Donc un des grands typographes qui a numérisé des calligraphies d'auteurs. Qu'est-ce que ça permet d'avoir ce travail de Jean-François Rey?
Alors, ça permet de... Je vais commander cette typo qui est la mienne. Qui est la mienne, qui utilise ma vraie écriture BD pour pouvoir lettrer facilement les bandes dessinées et corriger surtout, pour pouvoir faire des corrections orthographiques ou rapides. De la même manière, je préfère écrire à la main parce que c'est un peu de guingois. Et l'intérêt de la police de caractère créée par Jean-François Rey, c'est qu'il y a des variantes pour chaque lettre, ce qui fait qu'on ne s'ennuie pas. Très souvent, les typos faites d'après une typo à la main pour l'ordi, par exemple, le E, ça va être le même à chaque mot. Et moi, pour chaque lettre, j'ai trois variantes, et en général, l'application redistribue... S'il y a 3 E, ça va être 3 formes différentes, ça va faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et ce qui fait que il y a une danse typographique devant nos yeux qui donne un air naturel et pas un air mécanique, justement. Donc c'est une typo de très grande qualité qui me gagne énormément de temps.
Soulcier, quel est le dessin politique que vous auriez aimé signer, qui reste dans votre panthéon?
Alors, je l'ai vu l'autre jour et je me suis dit, il faut que je l'enregistre, et je ne l'ai pas enregistré. Et c'est un dessin de Pétillon avec les tailles. Mais je ne saurais plus dire ce que c'est, mais c'est tout est c'est très, 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 très drôle. Et le trait est tout à fait minimal. Et le nombre de mots de la blague aussi. Je ne l'ai plus en tête, mais ouais, moi ce serait un dessin comme ça. En politique, ouais, ce serait ça.
Merci beaucoup, Soulcier. Je rappelle les caractéristiques de votre livre. Dans la tête d'un dessinateur de presse, c'est publié par XP Édition. Les 256 pages de votre livre sont au prix de 25 euros et il a été imprimé en Italie. Merci et très bonne continuation. Puis on se retrouvera peut-être à la prochaine édition du Festival de sa presse. À bientôt.
Merci beaucoup, Bruno.
Merci.
À bientôt.
Au revoir.
Des aéroports à l'intérieur de moi. Je veux avoir du respect vis-à-vis des avions. C'est pour ça que je ne veux pas qu'ils pensent que je me moque d'eux. Je veux prendre soin de vous, les avions. Vous faire sortir de moi pour prendre soin de vous. Vous manipuler doucement. Ne pas claquer la porte trop fort. J'ai peur de vous avaler. Vous êtes le symbole du voyage. Je ris pour autre chose. Je ris pour autre chose. Je me moque pas de vous, je ris pour autre chose. je ris pour autre chose, je ris pour autre chose, je me moque pas de vous, je ris pour autre chose. C'est quand je dis à Olivier, c'est vrai que mon père va te vendre notre appartement, et qu'il me répond, oui c'est vrai, d'ailleurs je ne suis pas content que tu aies fait des trous dans le mur. Ce qui me fait rire, c'est quand je dis à Thomas qu'on passera toute notre vie dans la rue et qu'on dormira sur sa veste, et qu'on mangera les feuilles des arbres pour le petit déjeuner par terre dans la rue. Ce sera mieux que de manger le petit déjeuner à l'hôtel. Je ris pour autre chose, je ris pour autre chose. Je me moque pas de vous, je ris pour autre chose. Je ris pour autre chose, je ris pour autre chose. Je me moque pas de vous, je ris pour autre chose. Comme je tiens à vous et que je vous aime beaucoup, je ris pour autre chose. Je ris pour autre chose. Jamais je me moquerai de vous, je ris pour autre chose. Je tiens à vous, je vous aime beaucoup. Pendant que les parents ne sont pas là. Ce qui me fait rire, c'est Arthur qui imite la mère américaine qui rentre à la maison.
Honey, I'm home and I have beef jerky for you.
Ça me fait rire de faire dire des conneries aux gens. Connaissez-vous le patami des enfants? La personne répète machinalement parce qu'elle ne comprend pas. Ça me met dans un état d'excitation. Connaissez-vous le pataformatique, la confiance? Connaissez-vous la hall? Connaissez-vous la boulgourine? Pensez-vous que ma cousine en Angleterre a beaucoup de caractère? Je ris pour autre chose, je ris pour autre chose. Je me moque pas de vous, je ris pour autre chose. Je ris pour autre chose, je ris pour autre chose.
Je voudrais terminer cette émission avec Censure en Amérique de Patrick Chapat et Anne Telness. C'est un livre indispensable. Bien sûr, dans le thème qui nous occupe aujourd'hui, celui du dessin de presse. Les deux auteurs sont des dessinateurs politiques. Anne Telness a été dessinatrice de presse, je vais y arriver. Elle a eu le prix Pulitzer du dessin de presse en 2001 et en 2025. Elle a eu aussi de nombreux autres prix. Et puis, elle a travaillé pendant 17 ans au Washington Post et elle a introduit le dessin de presse animé. En fait, Anne Telness a démissionné du Washington Post après un dessin où elle a mis en scène Jeff Bezos, qui est le propriétaire récent du Washington Post et qui donne de l'argent et qui amène de l'argent sous une statue de Trump. C'est un des nombreux dessins qu'elle a pu faire où elle brocardait aussi cette collusion entre les grands patrons, notamment de la tech et le pouvoir de Trump. Donc, elle ne peut plus travailler sur support papier. Elle est aujourd'hui sur Substack, qui est une plateforme où on peut suivre des créateurs et s'abonner à leur contenu. Patrick Chapat a très longtemps travaillé également aux États-Unis ou au New York Times. Et c'est un dessinateur pour le Canard Enchaîné, la Tribune du Dimanche en France, Le Temps et NZ Am Sonntag en Suisse. Et il collabore encore au Boston Globe. Il a aussi également eu de nombreux prix. Donc, traité de la censure en Amérique avec ces deux auteurs qui sont immergés dans cette expression, dans cette création, dans cette écriture dessinée politique, et notamment dans ces grands périodiques parisiens, eh bien, c'est essentiel, réjouissant. La couverture nous montre Trump, traité d'abord à gauche par Patrick Chapat et à droite par Anne Telnes. Le livre se présente comme un dialogue en quatre parties avec un espace de liberté qu'on ferme, le mafieux et l'autocrate, et puis il y a les deux dernières parties, quand la peur s'installe et Armand les crayons. Donc chaque partie est composée d'un dialogue entre les deux dessinateurs et dessinatrices et un ensemble de dessins qui va illustrer la thématique de ce dialogue. Donc, sont abordées, bien évidemment, toutes les situations du dessinateur de presse, comment est abordé l'écriture dessinée, le dessin politique, comme a pu le faire Soulcier tout à l'heure. Et ce qui est vraiment complété, c'est par ces questions de censure et d'auto-censure, puisque c'est une des grandes conséquences. À partir du moment où la censure s'installe, le risque d'une auto-censure des auteurs est importante, et donc la perte de cette liberté d'expression qui va s'amoindrir parce que on risque la censure, donc en fait on fait des dessins qui ne la risqueront pas. Tout ça est évoqué en détail et avec beaucoup de précision et de finesse par Patrick Chapat et Anne Telnes. Et à chaque fois, les exemples donnés nous montrent tout simplement la force du dessin de presse. Anne Telnes a une façon de dessiner Trump qui est assez étonnante. On le reconnaît immédiatement, c'est pas difficile, il a un physique qui s'y prête largement. Mais Anne Telnes a un trait qui est précis, avec une tension un peu importante, un trait appuyé, affirmé, qui va parfaitement avec le dessin politique, et une façon après de caricaturer les personnages tout en captant la force de la ressemblance. Et donc, on va reconnaître très facilement, alors Trump bien évidemment, mais après des personnages comme Elon Musk et tous ceux de la clique autour de Donald Trump. Cette façon de donner une puissance au trait et d'avoir cette concision du dessin politique qui va vous pointer un des problèmes de l'actualité, un des points de l'actualité qu'il est important de se mémoriser, de découvrir, eh bien, c'est fait à chaque fois avec justesse. Patrick Chapat a un autre genre de trait qui est moins tendu, qui est un trait un peu plus rond. Il va utiliser la hachure pour donner un peu de relief à ces différents motifs. Il y a aussi une énergie, une efficacité, mais qui ne se traduit pas de la même façon. C'est aussi une des forces du dessin politique, c'est sur l'ensemble des dessinateurs de presse, on a autant de styles et d'approches, même si on retrouve ce côté incisif qui est essentiel dans le dessin de presse pour qu'il touche. Sinon, il risque tout simplement d'être mou. L'immersion dans cette censure en Amérique est un peu vertigineuse parce que, en un livre, on découvre pleinement l'ampleur de ce qui se passe outre-Atlantique. L'actualité sans arrêt se pointe sur une nouvelle frasque de Trump. C'est tout simplement une façon d'occuper l'espace médiatique et il y réussit parfaitement. Et donc, le livre va reprendre à travers ces quatre thèmes cet ensemble de situations et qui montre cette nécessité d'être, de ne pas s'arrêter, de continuer. Et là aussi, les auteurs posent bien la question. Trump veut occuper l'espace médiatique, mais si les dessinateurs de presse contestent cela en ne faisant pas de dessin, le risque est aussi extrêmement grand. En abordant ainsi tous ces points très forts de l'écriture du dessin de presse, du dessin politique, et de montrer toute la nécessité qu'il y a à être constant, permanent sur l'actualité et à revendiquer des supports papier notamment, mais aussi numériques. Et Substack permet aujourd'hui à Intel Ness de continuer à faire ses dessins quotidiens et d'être soutenu par des personnes qui peuvent la suivre. Ce n'est pas aussi puissant que lorsqu'on est sur la une d'un journal papier ou d'un journal numérique de grande histoire. Eh bien, Substack permet quand même de continuer une activité et c'est essentiel. Censure en Amérique est un livre donc de Patrick Chapat et Anne Telness, deux dessinateurs de presse. C'est publié par les éditions Les Arènes. C'est sorti au mois d'octobre. J'avais un peu attendu pour pouvoir présenter ce livre en essayant d'avoir un entretien avec les auteurs, mais ça n'a pas été possible. Les 224 pages de ce livre sont au prix de 24 euros. Le livre a été imprimé en France et vraiment, sa présence dans toutes les bibliothèques est extrêmement souhaitable. Merci Issa pour cette technique. Bonne semaine à tous. J'ai été un petit peu plus long, mais bon, ce livre le mérite amplement. Bonne semaine à tous sur les ondes de Radio Escapade. Écriture dessinée.